Good Evening Business, l'invité.
Notre premier invité ce soir dans Good Evening Business, c'est le patron d'Euronext. Bonsoir Stéphane Bougin.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous ce soir dans Good Evening Business. Vous avez publié, Stéphane, semaine dernière, vos résultats du troisième trimestre. Bon, globalement, c'est pas mal. Ça résiste plutôt aux turbulences du marché, aux conditions défavorables. Ça va durer jusqu'à quand, ces mauvaises conditions de marché, Stéphane Bougenard?
Écoutez, le regard qu'on doit avoir sur le marché est ambivalent parce que le niveau absolu des valorisations reste élevé. Aujourd'hui, vous avez un CAC qui clôture à plus de 6400 points. De mémoire, avant la crise en Ukraine et avant le Covid, on était au-dessus de on était très peu en dessous de ces niveaux-là. Donc on n'est pas dans des niveaux de crise. On est dans des niveaux qui reflètent les bonnes perspectives sur les résultats des entreprises qui continuent à publier des bons résultats trimestriels. Je pense que ça peut durer tant que les fondamentaux des entreprises et de leur performance sont encore réels.
Cela dit, dans vos résultats à vous, Euronext, quand même, tout cet environnement, ça challenge vraiment vos revenus, votre business model. Les volumes d'échanges sont plus faibles. Et alors, les IPO, les introductions en bourse, cette année, il faut faire une croix dessus.
Pour nous, c'est non. Enfin, il faut être là aussi assez nuancé. L'activité de volume, l'activité qui est liée à la négociation des actions, a été en baisse. Ouais. Le chiffre d'affaires est resté stable. Pourquoi ? Parce que nos autres activités, car le groupe est beaucoup plus diversifié qu'on l'imagine souvent, la négociation des actions, ça ne représente plus que 20% environ de l'ensemble de nos activités. Mais ce que nous faisons sur les cotations en bourse, je vais y revenir, les activités de post-marché, les activités de vente de données, les activités de change, de négociation, de devises, etc., ont été extrêmement dynamiques. La vente de technologies et de solutions technologiques ont été extrêmement dynamiques et ça a compensé les faiblesses sur les volumes. Alors sur les cotations, ce qui est intéressant, c'est de constater que on a aujourd'hui moins de cotations que l'an dernier, mais plus que en 2020, en 2019 et en 2018. D'accord. Donc le rythme de cotation en bourse est significativement plus élevé qu'à cette époque-là. Et c'est d'ailleurs le cas aussi dans l'ensemble d'Euronext. Donc c'est plutôt l'année 21 qui a été exceptionnelle que l'année 22 qui est faible. Mais cela dit, évidemment, si vous comparez à l'année 21 où les taux étaient dans l'ensemble très bas et où les marchés étaient très bullish avec beaucoup de liquidités, c'est plus compliqué aujourd'hui de faire une IPO. Il y a plus de différenciation qu'il n'y en avait l'an dernier. Mais on n'est pas dans une situation d'effondrement. Je veux insister là-dessus. Les marchés, ni en volume de négociation, ni en valeur absolue des indices, ni en nombre de cotations, n'ont déserté les marchés actions. Même si, bien sûr, vous avez des alternatives à l'investissement. L'an dernier, il n'y avait pas d'alternative pour avoir du rendement à l'investissement dans les produits actions. Aujourd'hui, vous pouvez avoir un petit rendement, même si les taux d'intérêt sont toujours nets après inflation, sont négatifs par après l'inflation, vous pouvez avoir un petit rendement dans les taux fixes.
Mais alors justement, vous parlez de ces taux qui sont négatifs, ils ne sont pas encore au niveau où ils sont en capacité de normaliser l'inflation. Les banques centrales, elles continuent de faire leur travail, c'est-à-dire qu'elles continuent d'augmenter leurs taux. Est-ce que vous dites qu'elles sont trop dures et qu'elles asphyxient l'économie?
Non, il y a un débat... Enfin, ça, c'est vraiment une question de légitimité. Je veux dire, les gens qu'on élit dans les démocraties sont là pour décider s'ils font du soutien budgétaire ou fiscal quand on est en période de récession, quand il y a des risques de récession. Les banques centrales sont là pour faire des arbitrages entre lutter contre l'inflation ou éviter la récession. C'est un sujet difficile. Aujourd'hui, elles considèrent que le risque d'inflation est prioritaire et elles ont décidé de prendre des risque de ralentissement de l'activité. Bon, c'est une priorité qui est claire, mais qui suppose de la constance. Et donc, il faut probablement s'attendre, et d'ailleurs, je crois que c'est les messages que Mme Lagarde a passé comme M. Powell aux États-Unis, il faut s'attendre à ce que ça continue.
Mmh. Oui, donc, mais alors, contrairement aux États-Unis, on a un gouvernement français qui est ultra-protectionniste, donc c'est un peu comme si on appuyait sur la pédale de frein et d'accélérateur au même moment.
Pas tout à fait, parce que pour le coup, sur ce sujet-là, il y a eu deux activités coordonnées qui en consistent, l'une qui a coordonnée, elle n'a pas été explicitement coordonnée, mais elle a eu un effet efficace sur l'inflation. Le premier, c'est celle des banques centrales, dont on vient de parler, et l'autre, c'est le soutien budgétaire, puisque c'est bien de ça dont il s'agit, au prix de l'électricité, de l'énergie en général, et qui, au fuel, enfin au carburant, aux hydrocarbures en général, qui a permis d'éviter une inflation de second tour. Aujourd'hui, pour faire simple, l'inflation en France est autour de 6%, c'est le plus faible niveau en Europe. Aux Pays-Bas, où est le siège juridique d'Amsterdam, l'inflation est de 17%. dans les pays baltes, elle est supérieure à 20%. Donc, c'est parce que nous tous, en tant que contribuables, nous atténuons la facture d'énergie de tous les ménages, par l'effort que le gouvernement a engagé, que nous arrivons à maintenant une inflation plus faible, et cette inflation plus faible permet de limiter ce qu'on appelle l'inflation de second tour, c'est-à-dire une spirale sur une augmentation des salaires qui serait excessive.
On a une inflation importée, donc...
Voilà, mais c'est pour ça qu'il faut nuancer les choses, mais je dis juste que sur ce terrain de la lutte contre l'inflation, il y a des démarches séparées de la Banque centrale par l'augmentation des taux et du soutien budgétaire à cet actif particulier, à cette source de dépenses particulière qu'est l'énergie, qui a permis de limiter l'inflation en France.
Stéphane Bougenat, vous venez de faire un tour d'Europe de l'inflation. Vous avez fait une opération majeure, structurante, il y a quelques mois, le rachat de Borsa Italiana, la bourse italienne à Milan. Comment se passe l'intégration? Et puis, est-ce que l'arrivée d'un nouveau pouvoir en Italie, l'arrivée de Giorgia Meloni, compromet d'une façon ou d'une autre, enfin, ou remet en question d'une façon ou d'une autre l'opération? On voit par exemple que dans l'aérien, chez ITA Airways, l'arrivée d'un nouveau gouvernement est en train de rebattre un peu les cartes, et que la Première Ministre se cache pas de vouloir faire du patriotisme économique. Est-ce que ça remet en cause votre deal?
Non. L'intégration se passe extrêmement bien. Les résultats de cette opération sont extrêmement positifs. Nous avons déjà engagé la première phase des migrations importantes, qui est le déplacement de nos serveurs, de notre data center principal du groupe, qui était dans la banlieue de Londres et que nous avons installé dans la banlieue de Bergame. Et c'est une opération qui permet des gains économiques considérables, et surtout qui permet d'avoir le cœur du data center du groupe à l'intérieur de l'Union européenne, alors qu'il était parti en dehors de l'Union post-Brexit. Et par ailleurs, on s'engage sur d'autres migrations très importantes. Le marché italien va migrer sur la plateforme technologique unique au mois de mars prochain. Et d'une manière générale, les marchés italiens vont devenir beaucoup plus intégrés dans les marchés européens, comme d'ailleurs une partie des marchés européens est beaucoup plus présente en Italie. Et avec cette migration du data center à Bergame, c'est 25% des actions qui sont échangées en Europe qui font l'objet d'une négociation physique dans les serveurs qui sont à Bergame. Alors, le gouvernement italien a changé. Nous travaillons dans au moins une dizaine de pays et 7 marchés réglementés. Et dans chacun de ces pays, il y a des élections régulièrement, il y a régulièrement des changements de gouvernement. Et les priorités au développement national, les frustrations de la mondialisation, elles existent partout. On a acheté Oslo Børs en 2019. Ouais, mon interlocuteur était la ministre des Finances, qui était la chef du parti populiste, qui était en coalition avec les conservateurs, canal historique. Enfin,
donc ce que vous dites, c'est que finalement... dans les pays où vous travaillez, peu importe que le gouvernement qui soit élu soit d'un parti extrême, ça ne change rien.
Soyons précis, on a négocié cette transaction au mois de pendant l'été 2020. Nos interlocuteurs étaient monsieur Giuseppe Conte, qui était président du Conseil issu du mouvement 5 étoiles, son ministre des Finances, qui était monsieur Roberto Gualtieri, qui était issu du Parti démocrate, et puis on a continué à travailler avec monsieur Franco, ministre des Finances, qui était un ministre technique dans le gouvernement Draghi. On va continuer à travailler avec monsieur Giorgetti, qui était déjà ministre. Donc les choses, il y a un continuum, et nous respectons les choix des gouvernements.
Il nous reste 45 minutes, Stéphane Bougenat. Thomas...
45 secondes plus que minutes, je pense.
Secondes, pardon. Oui.
Le temps passe vite.
Thomas, voilà, nous a emmenés en Italie. Je nous emmène en Égypte. On est en pleine COP27. La finance est accusée de ne pas jouer le jeu, de ne pas en faire assez pour la transition écologique. Est-ce que vous dites que la France reste, et puis l'Europe peut-être, un champion du monde quand même de la transition climatique, ou que nous aussi, on en fait pas assez?
Mais moi, je crois qu'on est en Europe très avancé dans ce domaine. Je pense que ce que nous essayons de faire, nous, avec nos différents indices, CAC 40, ESG, les indices de biodiversité, le fait qu'aujourd'hui, c'est presque un quart des ETF, de l'argent investi sur les ETF, sur le CAC 40, canal historique, pour l'appeler ainsi, qui s'est déplacé sur le CAC 40 ESG, le fait qu'on ait développé le MIB ESG à Milan, le AEX ESG à Amsterdam, l'OBX ESG à Oslo, le fait que nous-mêmes, nous transformons notre manière de travailler, puisque nous avons pris des engagements de réduction carbone qui sont très forts.
Donc, vous dites que la finance est au rendez-vous de la transition.
Je veux dire, moi, je vais à Milan, maintenant, je prends le train. Je passe 7 heures dans le train plutôt qu'une heure dans l'avion, parce que quand je passe 7 heures dans le train entre Paris et Milan, je brûle 1,5 kg de carbone, alors que dans l'avion, je brûle 100 kg de carbone. Et donc, c'est ça la réalité. Et nous allons réduire notre empreinte carbone massivement sans acheter des indulgences, sans acheter des certificats de compensation comme certains le font. Donc si on est prêt à transformer nos habitudes, et beaucoup d'institutions financières le sont, beaucoup d'infrastructures de marché y sont prêtes, je crois qu'on peut jouer un rôle d'entraînement très réel.
Bon, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup Stéphane Boujnah d'avoir été avec nous ce soir. Dans Good Evening Business.